vraie histoire de la persécution juive à Ravensburg. Quand Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, beaucoup de choses ont changé en Allemagne, et l'histoire de la population juive de Ravensburg à cette époque est triste à raconter. Pourtant, ce n'était pas la première fois que l'antisémitisme était enregistré pour la première fois comme ayant élevé sa vilaine tête dans la région. Au Moyen Âge, une synagogue, mentionnée dès 1345, était située au centre de Ravensburg, desservant une petite communauté juive qui peut être retracée de 1330 à 1429. À la fin de 1429, et jusqu'en 1430, les juifs de Ravensburg ont été visés et un horrible massacre s'est ensuivi. Dans les localités voisines de Lindau, Überlingen, Büchorn, rebaptisées plus tard Friedrichshafen, Meersbourg et Constance, il y a eu des arrestations massives de résidents juifs. Les juifs de Lindau ont été brûlés vifs lors de la diffamation du sang de Ravensburg en 1429-1430, dans laquelle des membres de la communauté juive ont été accusés de sacrifier rituellement des bébés. En août 1430, à Überlingen, la communauté juive a été forcée de se convertir, 11 d'entre eux l'ont fait, et les 12 qui ont refusé ont été tués. Les massacres qui ont eu lieu à Lindau, Überlingen et Ravensburg ont eu lieu avec l'approbation directe du roi Sigmund au pouvoir, et tous les juifs restants ont été bientôt expulsés de la région. Ravensburg a fait confirmer cette interdiction par l'empereur Ferdinand Ier en 1559, et elle a été confirmée, par exemple, dans une instruction de 1804 émise pour la garde de la ville, qui disait « Puisque les juifs ne sont autorisés à se livrer à aucun commerce ou entreprise ici, personne d'autre n'est autorisé à entrer dans la ville par la poste ou en voiture. Les autres, cependant, s'ils n'ont pas reçu de permis pour un séjour plus ou moins long du bureau de police, doivent être expulsés de la ville par le poste de police. » Ce n'est qu'au XIXe siècle que les Juifs ont pu s'installer légalement à Ravensburg à nouveau et, même à ce moment-là, leur nombre est resté si petit qu'une synagogue n'a pas été reconstruite. En 1858, il n'y avait que 3 Juifs recensés à Ravensburg et, en 1895, ce nombre culminait à 57. Du début du siècle jusqu'en 1933, le nombre de Juifs vivant à Ravensburg avait régulièrement diminué jusqu'à ce que la communauté ne soit composée que de 23 gens. Au début des années 1930, cette famille juive principale vivait à Ravensburg, dont les familles Adler, Erlanger, Harburger, Hermann, Landoe, Rose, et Sondermann. Après la prise du pouvoir par les nationaux socialistes, certains juifs de Ravensburg ont d'abord été contraints d'émigrer, tandis que d'autres seraient plus tard assassinés dans les camps de concentration nazis. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu de nombreuses manifestations publiques de haine envers la petite communauté de juifs à Ravensburg et aux alentours. Dès le 13 mars 1933, environ 3 semaines avant le boycott national par les nazis de tous les magasins juifs d'Allemagne, des gardes de l'Assa se sont postés devant 2 des 5 magasins juifs de Ravensburg et ont essayé d'empêcher les acheteurs potentiels d'entrer, en mettant des pancartes sur un magasin indiquant Wohlwehr fermé jusqu'à l'arianisation. Wohlwehr deviendrait bientôt arianisé et serait le seul magasin appartenant à des juifs à survivre au pogrom nazi. Les autres propriétaires des 4 grands magasins juifs de Ravensburg, Knopf, Mercure, Landoe et Wallersteine ont tous été contraints de vendre leurs propriétés à des marchands non-juifs entre 1935 et 1938. Pendant cette période, de nombreux juifs de Ravensburg ont pu fuir à l'étranger avant que la pire des persécutions nationales-socialistes ne commence. Alors qu'au moins 8 sont morts violemment, il a été rapporté que 3 citoyens juifs qui vivaient à Ravensburg ont survécu grâce à leurs conjoints ariens. Certains des juifs arrêtés à Ravensburg pendant la nuit de Cristal ont été contraints de marcher dans les rues de Baden-Baden sous la surveillance des SS le lendemain, et ont ensuite été déportés au camp de concentration de Sachsenhausen. Des crimes horribles nazis contre l'humanité ont eu lieu à Ravensburg. Le 1er janvier 1934, la signe inférieure loi pour la prévention des maladies héréditaires signe supérieur est entrée en vigueur dans l'Allemagne nazie, ce qui signifie que les personnes atteintes de maladies diagnostiquées telles que la démence, la schizophrénie, l'épilepsie, la surdité héréditaire et divers autres troubles mentaux pouvaient être légalement stérilisées de force. À l'hôpital de la ville de Ravensburg, aujourd'hui appelé hôpital Elige, des stérilisations forcées ont été effectuées à partir d'avril 1934. En 1936, la stérilisation était la procédure médicale la plus pratiquée à l'hôpital municipal. Dans les années d'avant-guerre des années 1930 qui ont conduit à l'annexion allemande de la Pologne, l'usine Schewitz de Ravensburg, désormais gérée directement par le père de Klaus Schwab, Eugen Schwab, a continué d'être la plus grosse employeur de Ravensburg. Non seulement l'usine était un employeur important dans la ville, mais le propre parti nazi d'Hitler a décerné à la succursale des Schewitz Ravensburg le titre de National Socialist Model Company alors que Schwab était à la barre. Les nazis courtisaient potentiellement la société suisse pour la coopération dans la guerre à venir, et leurs avances ont finalement été réciproques. Et chez Wyss Ravensburg et la guerre. Ravensburg était une anomalie en Allemagne en temps de guerre, car elle n'a jamais été la cible de frappes aériennes alliées. La présence de la Croix-Rouge et un accord présumé avec diverses sociétés, dont Eschewiss, ont vu les forces alliées accepter publiquement de ne pas viser la ville du sud de l'Allemagne. Il n'a pas été classé comme une cible militaire importante tout au long de la guerre et, pour cette raison, la ville conserve encore bon nombre de ses caractéristiques d'origine. Cependant, des choses beaucoup plus sombres se préparaient à Ravensburg une fois la guerre commencée. Jean Schwab a continué à gérer la société modèle national-socialiste pour Eschewiss, et la société suisse aiderait le nazi Wehrmacht à produire des armes de guerre importantes ainsi que des armements plus basiques. La société Eschewiss était un chef de file dans la technologie des grandes turbines pour les barrages hydroélectriques et les centrales électriques, mais elle fabriquait également des pièces pour les avions de combat allemands. Ils étaient également intimement impliqués dans des projets beaucoup plus sinistres qui se déroulaient en coulisses qui, s'ils étaient terminés, auraient pu changer l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Fonctionnaire nazi. Devant l'hôtel de ville de Ravensburg en 1938. Source, Oderstadtgeschichte Ravensburg. Les renseignements militaires occidentaux étaient déjà au courant de la complicité et de la collaboration d'Eschewiss avec les nazis. Il existe des dossiers disponibles à partir du renseignement militaire occidental à l'époque, en particulier Record Group 226, RG 226, à partir des données compilées par le Bureau des services stratégiques, OSS, qui montrent que les forces alliées étaient au courant de certaines des activités d'Eschewiss. Relations avec les nazis. Dans RG 226, il y a trois mentions spécifiques d'Eschewiss, notamment numéro de dossier 47178 qui se lit comme suit. Eschewiss de la Suisse travaille sur une commande importante pour l'Allemagne. Les lance-flammes sont expédiés de Suisse sous le nom de Brennstoff BLT. Daté de septembre 1944. Le dossier numéro 41-589 montrait que les Suisses autorisaient le stockage des exportations allemandes dans leur pays, une nation supposée neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. L'entrée se lit comme suit. Relation d'affaires entre Empresa Nacional Calvo Sotelo, Encasso, Eschewiss et Mineralselbogesellschaft. 1 page. Juillet 1944, voir également L42627 rapport sur la collaboration entre l'Empresa Nacional Calvo Sotelo espagnol et l'allemand Rheinmetall Borsig sur les exportations allemandes stockées en Suisse. 1 page. Août 1944. Le dossier numéro 72-654 affirmait que la bauxite hongroise était autrefois envoyée en Allemagne et en Suisse pour raffinage. Puis un syndicat gouvernemental a construit une usine d'aluminium à Duna Alma aux frontières de la Hongrie. L'énergie électrique était fournie, la Hongrie a fourni des mines de charbon, et l'équipement a été commandé à la société suisse Eschewiss. La production a commencé en 1941. 2 pages. Mai 1944. Pourtant, Eschewiss était leader dans un domaine en plein essor, en particulier, la création d'une nouvelle technologie de turbine. La société avait conçu une turbine de 14 500 CV pour la centrale hydroélectrique stratégiquement importante de l'installation industrielle de Norsk Hydro à Vemork, près de Rjukan en Norvège. La centrale de Norsk Hydro, en partie alimentée par Eschewiss, était la seule usine industrielle sous contrôle nazi capable de produire de l'eau lourde, un ingrédient essentiel pour fabriquer du plutonium pour le programme de bombes atomiques nazi. Les Allemands avaient mis toutes les ressources possibles derrière la production d'eau lourde, mais les forces alliées étaient conscientes des progrès technologiques potentiellement révolutionnaires des nazis de plus en plus désespérés. En 1942 et 1943, la centrale hydroélectrique fut la cible de raids partiellement réussis des commandos britanniques et de la résistance norvégienne, bien que la production d'eau lourde se poursuive. Les forces alliées largueraient plus de 400 bombes sur l'usine, ce qui affectait à peine les opérations de l'installation tentaculaire. En 1944, des navires allemands ont tenté de transporter de l'eau lourde en Allemagne, mais la résistance norvégienne a pu couler le navire transportant la charge utile. Avec l'aide d'Eschewiss, les nazis ont presque pu changer les marées de la guerre et provoquer une victoire de l'Axe. De retour dans l'usine Eschewiss à Ravensburg, Jean Schwab s'était efforcé de faire travailler des travailleurs forcés dans son entreprise modèle nazi. Pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, près de 3600 travailleurs forcés ont travaillé à Ravensburg, y compris à Eschewiss. Selon l'archiviste de la ville de Ravensburg, Andrea Schmude, l'usine de machines Eschewiss de Ravensburg employait entre 198 et 203 travailleurs civils et prisonniers de guerre pendant la guerre. Karl Schweizer, un historien local de l'Indo, déclare qu'Eschewiss a maintenu un petit camp spécial pour les travailleurs forcés dans les locaux de l'usine. L'utilisation de masse de travailleurs forcés à Ravensburg a rendu nécessaire la mise en place de l'un des plus grands camps de travaux forcés nazis enregistrés dans l'atelier d'un ancien charpentier de la Zeugelstrasse 16. À une certaine époque, le camp en question accueillait 125 prisonniers de guerre français qui ont ensuite été redistribués dans d'autres camps en 1942. Les travailleurs français ont été remplacés par 150 prisonniers de guerre russes qui, selon la rumeur, ont été traités le pire de tous les prisonniers de guerre. L'une de ces prisonnières était Zina Jakushulova, dont la carte de travail et le cahier de travail sont conservés par le United States Holocaust Memorial Museum. Ces documents l'identifient comme une travailleuse forcée non juive affectée à Ravensburg, en Allemagne, en 1943 et 1944. Jean Schwab maintiendrait consciencieusement le statu quo pendant les années de guerre. Après tout, le jeune Klaus Martin Schwab étant né en 1938 et son frère Uwe René Schwab né quelques années plus tard, Jean aurait voulu mettre ses enfants hors de danger.